Bon, bonjour à toutes. Alors, pour commencer, c'est qu'il faut dire que ce qui est important est de se cambier. Et ce qui est important, ça va être d'échanger. Pas d'échanger pour avoir un diplôme, pas pour avoir une médaille, pas tomber pour faire une saberute, mais pour des questions, des bios, on est des vivants. Et le jour où il y a ça qui avait des pains sur la planche, pour que la bénédiction n'est pas simple. Quand j'avais votre âge, moi, il m'a pris une folie. C'est de me dire, va se faire des théâtres. Et moi, d'accord, faire des théâtres occitans. À quoi fera l'an qui vient, sera 600 ans qu'il faut à quoi. Donc, dans un monde comme le nôtre, le miniature de la France, où comme l'air à l'époque, les deux tiers de l'humanité, dire, parler, c'est pas gagner. Et ce n'est toujours pas. Pas mais si on ne peut pas dire, ça ne vient pas de télévision, ça ne vient pas de cinéma, ça ne vient pas tout à quel foutral. Eh bien, si tu ne dis rien, tu te fais piétiner. Pour vivre nous autres, il y a une raison fondamentale, est de pouvoir parler. Mais c'est comme ça qu'on commence l'histoire du théâtre d'oc. Pas l'histoire des papettes, mais l'histoire de notre génération. Vous voyez, aujourd'hui on me demande de parler de cette petite chose-là, théâtre occitan, le théâtre d'une minorité. Comme il y a beaucoup de minorités dans le monde d'aujourd'hui et qui sont vraiment prises pour des connes. Donc moi je ne vais pas vous parler de ça sans avoir pris le risque de vous parler de tout à coup. À quoi je pas une plaisir des Fadura le plaisir. Mais donc, à quoi, ben, ça rend un peu compliqué. Mais enfin, on ne peut pas aujourd'hui parler du théâtre d'oc si on ne définit pas le théâtre d'oc dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des femmes. Autrement, on se fait des branlettes, hein, c'est-à-dire, on se fait plaisir parce qu'on apprend en occitan ce qu'on pourrait dire en français. Non, on est dans un domaine particulier, l'occitan. Comme les pays africains aujourd'hui sont dans des cultures particulières et on a besoin, pour comprendre nos particularités, d'aller au fond des choses. Alors d'abord, commencerai par une quelques questions. Per vous, de qu'est-ce que le théâtre? Qu'est-ce que c'est pour vous le théâtre? Tel que... Oh, on va pas faire des... Qu'est-ce que c'est pour vous le théâtre tel que vous l'encapez comme encore dans la bidobilante?
Par là un boucor, des par là un boucor, un boucor, boucos.
Ok, alors le théâtre et nous l'avons est, nous disent une pièce de théâtre écrite. Alors qui je vous dirais que se passe à quoi uniquement le théâtre, parce que le théâtre on dit mai un boucos avec le corps, on dit mai un bel la dramaturgie, on dit mai un bel le décorum, mai les costumes, mai la musique, mai le gestus, la gestualité, mai le bien, et à quoi je dirais une cita, à quoi je le dirais en français. Moi je dirais l'accent du midi, pas plus en français, mais l'accent du midi. Tout à coup, est pas gratis. Tout à coup, le théâtre veut dire quiconque. Quand je parle comme ça, je me prends pour un parisien, alors j'ai l'accent de l'œuf. L'œuf à Montpellier, vous savez, c'est les trois muses là, sur la place de la Comédie. Par contre, là, c'est chez un paysan qui est en train de crever de la vigne, pour ne pas plus la possibilité de vivre de la vigne à nous redévier. Eh bien, je prendrai peut-être un peu de courage en me disant, oh, ma vigne n'a qu'à pas des chatoumba. Et attendez, parce que les chariots tumba ont l'identité. Donc là, vous voyez, ça prend sur des appuis. Par contre, si on est de la bourgeoisie montpelliéraine et qu'on est un pied à l'université et un pied chez monsieur le maire ou chez monsieur le président de la République, alors là, on se donne de temps en temps, on est un peu populaire. Braves amis, braves sœurs et frères. Et puis, le théâtre est à court. Mais est-ce que le texte, la façon dont on joue, en français, quand on a commencé à faire du théâtre en français, on nous disait qu'il fallait commencer par perdre l'accent. Et puis, on a gardé l'accent, mais mon ami, on n'était pas bien au courant. pas moi et Gébouz, mais à l'époque, avant de venir en Calandrette, on ne savait pas ce qu'est le théâtre occitan. Nous, on ne savait pas non plus trop ce que c'était le théâtre occitan. Alors quand on jouait, comme ça, putain, on nous disait, c'est comme quand vous jouez au foot ou au rugby, tu sais que tu es hargneuse, tu sais que tu dépenses au corps, tu vois. Là où une petite énergie suffit pour monter sur la chaise, nous, on a besoin de monter sur la table, mesdames. Et alors, putain, ils nous disaient, mais vous suez trop. Quand vous parlez, vous éclaboussez là, vous éclaboussez de la bouche. Oui, et pourtant, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Commencer de se couper le kiki, commencer de parler sans accent, ne parler uniquement avec des mots, ou bien mettre tout, et toutes les cordes à notre art, et avec notre art de tirer dans le bon sens, de toutes les forces que nous donnait notre langue, notre identité, notre besoin de vivre, qu'on appelle de l'énergie, et en même temps notre souci de comprendre, parce qu'on n'est pas plus con que les autres. Alors, voulez-vous commencer à Koumako? Et vous posez la question, et qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre est tout à coup. Quand on le lit à l'école avec des professeurs de français, ça c'est pas du théâtre. C'est de la littérature dramatique. On lit les textes que l'auteur, peut-être enfermé dans sa tour d'ivoire, aura écrit en pensant à vous. Vous m'entendez? Non, ça, c'est de la littérature dramatique. Pour être vraiment un auteur de théâtre, il faut être monté sur le plateau. Le Molière en compagnie, s'ils n'avaient pas été comédiens, metteurs en scène avant d'être... Monsieur de Molière, eh bien, il n'y aurait pas eu de théâtre de Molière. Donc, ne confondons pas la littérature dramatique telle qu'on la parle, telle que s'apprend à l'école, et puis, ce qu'est la Bertadier théâtre. Et moi, d'accord, quand c'est à qui des lignes, quand tu es dans le théâtre africain, dans le théâtre doc, ou le théâtre latino-américain, c'est à qui, les à quel pichot, rodou à qui. Voilà. Alors, on part sur ces bases-là. Interrompez-moi quand vous voulez. Parlez avec votre cœur. Le reste, vous gardez ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas là pour venir faire le couillon, une heure de plus ou une heure de moins. Moi, je préfère revenir deux, trois fois ici, mais en même temps, vous parler de la chose dans sa totalité, que de prendre la chose par le petit bout, ça suffit. Parce que si je commence la chose uniquement par ce petit bout, je vous cacherai les 9 dixièmes de la vérité. Pour comprendre ce petit bout, il faut déjà avoir un peu crapahuté d'une tout à coup. Alors là, ensuite, quand on arrivera à ce petit bout, vous comprendrez pourquoi, encore, il y a des gens qui font du théâtre doc, et que l'Occitan, c'est pas le passé, mais ça peut être demain aussi. Voilà, donc il faut commencer par des choses comme ça. Le théâtre, c'est une grande chose, surtout pour des gens qui n'ont pas de pognon. Quand tu as du pognon, que tu es financé par telle ou telle multinationale, CNews et compagnie, et Netflix et compagnie, alors là, peut-être tu as du temps, etc., mais tu as les moyens. Mais là, dire pour nous, c'est dire d'abord avec ce que tu as. Ton accent, ton énergie, et puis comme on ne t'ouvre pas la porte de théâtre parce que tu fais du théâtre, pas toi. Eh bien, il te faut t'imposer là où tu peux, dans la rue. Skoumako, quand même, combien ça? Donc, on va partir par quelques questions. On est sur la Terre, dans l'univers. Il nous regarde, l'univers. Il doit vivre, pauvre con de terrien. Il date de combien d'âge, l'univers? 15 milliards d'années. La Terre, elle.
13.
Quand on a des tens, autour de 5 milliards d'années, la Terre. L'humanité. 2,5 millions d'années.
Non, l'humanité, c'est 2,5.
L'homme et la fin, non hein. Puis oui, c'est là qu'on va à l'embeire. Quand commence, quelle est la motivation de la fin des hommes pour faire du théâtre, disons, faire de l'art au début, hein. Eh bien, tenez-vous plein, il a commencé comment l'art au début? Que ce soit les musiques, le théâtre, parce qu'au début, il n'y avait pas les disciplines d'un côté. la médecine de l'autre, la musique là-bas. Non, tout à coup, elle récampate. Hein, tout était fusionnel au début. Les arts sont arrivés plus tard. Mais qu'est-ce qui a poussé l'homme à créer l'art? Eh bien, c'est une histoire de pouvoir parler aux morts. Hein, les arts ont commencé le jour où on a commencé à enterrer les vivants, hein, où tu as bien commencé à enterrer le monde, et je dirais à peu près 60 000 ans, hein, 60 000, est-ce pas complètement 60 000 ans, mais là, qu'est-ce qu'a très bien, mais bien, grosso modo. Et les arts, 40 000 à peu près. Et les arts sont nés de ce besoin de l'homme, la fin, non, il y a quelqu'un qui est mort, putain, nous ne baiseras pas plus, mais à Zembech, de y est par là. Nous ne poudras pas plus, mais à Zembech, de y est par là. Et tes demandes, est-ce parti? Avec un terrain, bon, mais dès qu'il y a un bouquet de flous, qu'elle ne sera pas plus acquis, qu'elle ne sera pas ce qu'il doit, c'est par la reine à l'invisible, pour bien ses amundaux, ou bien ses démourades dans la terre. Et donc, c'est sur cette motivation, la vie appelle la mort a besoin de répondre à la vie a besoin de questionner la mort. C'est sur des questions comme ça, existentielles, que l'art s'est bâti. C'est pas uniquement comment il s'est bâti parce que vous m'avez vu, mec. Je suis Jean-Paul Belmondo. Vous savez, toutes les petites que j'ai autour de moi, formidable, formidable. Ça, c'est des stars à l'américaine. Peut-être ça vous plaît. Et c'est bien qu'il y ait un peu de tout sur la terre. Mais tout ça, c'est du, disons, de la musette sur la vie des hommes et des femmes. Et ça tient à autre chose, ce besoin de parler de la mort, de parler avec la mort avant de parler à la bide. Alors voilà, là maintenant nous rentrons dans ce qu'a été cette fameuse l'ouverture des arts. Oh. Et alors là maintenant je vais vous emmener dans une petite histoire, des une historia, unte le monde commence, les hommes de la préhistoire, hein, le monde commence va se raconter, mais tel qu'il le voit. Hein. Alors, au début, il y a le Big Bang, tout est fusionnel. Les arts, la médecine, et le métier, le sourcier, le masque, et tout ça est dans l'unité. Mais quand on arrive au paléolithique, le paléolithique est le moment des Cassaires. Et des monde qui est des chasseurs-cueilleurs, comme ça qu'on les voit aujourd'hui sur les chemins de transhumance, c'est encore les chemins de la préhistoire. Vous voyez, par exemple, Pixenloup, bah, il monte vers les Cévennes, Haute Cévennes, il va même au-delà de la Cévenne, on ira fins al Moulozère, et à qui se récampavo le monde de la initiation au moment du solstice d'estiu, 90 000 ans. Et là, on dit que l'Occitanie, c'est la chapelle Sistine de la préhistoire. Pourquoi sommes-nous la chapelle Sistine de la préhistoire? Parce que à ce moment-là, vous voyez, 90, 4, jusqu'à 8000 ans, c'est là, dans ces grottes, que les hommes premiers ont peinturat de las bestios. Et on le voit quand vous allez, par exemple, les grottes d'Ardèche, les grottes de Dordogne, entre l'Ardèche et la Dordogne, toutes ces grottes-là qu'on trouve, toutes aquelles camines des Stibaches, que c'est Bézou. Et bien, c'est là-dedans que la préhistoire, chez nous en Occident, a commencé à se raconter à partir des dessins qui sont pintrats dans les baumes, et qui sont peints dans les grottes, etc. Et là, ça s'est fait comment ce truc? Vous avez vu tous les animaux totémiques del País d'Oc. Les animaux totémiques, vous avez vu ce qu'il en reste aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous le savez, 2025. Hein? Bon, moi là, je vous parle de quelque chose qui remonte à cette époque-là. Donc, nos animaux totémiques, ils ne sont pas tombés la dernière pluie. Le totem est celui qui danse le ménage et qui danse d'avant. Eh bien, voilà, nous étions un tout comme ça, hein, cette humanité. Il y a eu la mort, on a interrogé la mort, et quand on a commencé à prendre goût, à se dire, mais ça peut servir à quelque chose de s'adresser à l'invisible, à la mort, en même temps, on se prépare à interroger des questionnats avec la Bible. Alors là, interroger la vie, ça a été, d'une part, se dire qu'il y avait un haut et il y avait un bas. En haut, c'est l'invisible, c'est le ciel, le bas, c'est la terre. Et les hommes qui ont commencé à se dire, mais peut-être que quand on meurt, on arrive dans le ciel. En même temps, il a inventé quelque chose qui nous importe beaucoup à nous, languedociens, c'est les totems. Et à l'époque, le menaire del poulet, la 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 la. C'était le menaire. Et le menaire, à cette époque-là, on les appelait les chamans. C'est-à-dire des sorciers, des masques, des brèches, qui étaient capables de parler ambe los vius, mais qui étaient també capables de parler ambe los morts, et puis à los esprits. Vous savez, ces esprits, l'esprit de la sfum, des fontaines, les esprits des forêts, les esprits de la montagne, les esprits de la mer. Et le totem era aquel animal psychopompe qui était capable, conduit par le chaman, d'aller vers le monde d'en haut ou vers le monde d'en bas. Ça, c'est la première manifestation du théâtre d'Oc, du théâtre de tous les pays, de l'humanité. Et donc, c'est ce qu'on voit donc. C'est ça qui est peint, qui est dessiné dans les baumos, dans les caunos et dans les grottes de par chez nous. On a ensuite trouvé le néolithique. Le néolithique, ça vient plus tard. Le néolithique, c'est le moment où le chasseur-cueilleur, le cassaire, commence à créer les premiers villages. Commence à domestiquer des animaux, c'est l'élevage, c'est le début de l'agriculture. Et là donc, ce qui importe mais beaucoup à cet homme-là, ce qui est le moyen important pour elle, est la fertilité. De la même façon que les femmes sont fertiles, elles portent des enfants, mais il faut que les jardins cultivés, les prats, les vignes, fassent des blattes, des vignes, tout à coup. Alors, on a inventé dans le monde d'en haut la terre-mère, c'est-à-dire une déesse, qui était une déesse du monde païen, voilà qui était un petit peu la femme du totem, tel qu'on l'imaginait, et le chaman qui avait faramuntado et la davalado d'amont et d'en bas, en bas avec la tribu. Et dans la tribu, il y avait bien sûr des hommes, des femmes, mais il y avait t'avais des hommes qui encore ne savait pas que pour avoir des petits, il fallait qu'il y ait contact sexuel entre l'homme et la femme. Mais quand l'homme s'est aperçu, le mâle s'est aperçu qu'il avait autant, il participait à la vie autant que les femmes, il a eu tendance un petit peu de prendre la place du totem et de venir remplacer aux côtés de la terre-mère ce qu'on a appelé après le matriarcat, dont le pouvoir de la société, plus ou moins aux femmes, alors que là, avec le patriarcat, on va maintenant avoir le pouvoir pour les hommes. Et la terre-mère, elle est refoulée à devenir la déesse, oui, toujours la déesse, la diva des infers. Et sous le patriarcat aussi, le totem, eh bien ma foi, on l'a remisé avec la femme dans le monde d'en bas, c'est-à-dire de positif, qui era positif, et à compta del momento in cui c'è des reis, d'imperadus, tout à coup, eh bien la femme, la déesse mère, a été rétrogradée de devenir la reine des infers. Donc là, vous voyez, on a le schéma dramaturgique, on a l'exemple historique que maintenant, on a une récession de la femme, et en même temps, on a quelqu'un qui devient l'oreille, en bien bas la tribu et la sphène, les hommes. Et quand on arrive à ce schéma patriarcal, il y a des choses qui se passent importantes dans la société. C'est-à-dire que la guerre devient l'économie principale. Aujourd'hui, il y en a partout des guerres. Hein. On croyait, ma génération, on croyait que c'était toujours la dernière. Hein. Mon père, grand résistant à Pézenas, il croyait que c'était la dernière. Mon grand-père, en 1914-1918, il croyait lui aussi que c'était la dernière. Aujourd'hui, on se demande à quand ce sera vraiment la dernière. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme a pris le pouvoir de la société, eh bien, c'était plus facile, dès qu'on a un peu de pouvoir, dès qu'on a des troupes, et romai simple, d'ana raubal ou bezin, de faire des pillages chez le voisin, d'avoir des esclaves qui travailleront à notre place, et comme ça, on arrive à un mode de société dans lequel l'esclavage, la femme et les peuples qui sont soumis, eh bien, ils occupent cette part du tableau. Là, on a maintenant l'Oussacrate. Là, on a plus ou moins ce qu'on appelle la Ciutat, la cité, la communauté, même quand on a, avant d'avoir, après avoir les villages. Et puis là, on garde la nature, hein, c'est-à-dire ce monde inexplicable qui fait peur, dans lequel on a mis maintenant les monstres qui étaient les anciens totems, dans lesquels on a mis également le monde qu'on appelle les barbares, et je dirais los que venu del país estrangier, que connaissent pas. Et puis l'homme est mitant d'accord, le pauvre couillon que l'on est tiraillé d'un coustat par la ciutat, de l'autre coustat par la nature et par une sacrate. Mais au début, les rois, ils étaient là en tant que rois, mais puis ils se sont pris pour des reins divins. Et à qui c'est din, entrinde d'intra din l'histoire. Quand on rentre dans l'histoire, c'est-à-dire vers l'âge de fer, l'âge du bronze, l'âge du fer, donc 1500, 2000 avant Jésus-Christ, on a ce schéma qui règne. Des rois de Méditerranée qui deviennent de plus en plus divins, la femme qui est reléguée un peu dans la nature, les monstres, c'est-à-dire là où autrefois, par exemple, on avait le bois sacré. Il y en a encore chez nous des bois sacrés, qu'on appelle en occitan los bosques. Hein, des bois comme ça, sacrés, qui ont gardé encore ce nom. Eh bien, il y avait la possibilité de mettre, l'homme mettait là un taureau, une bête, un cheval, pour un petit peu personnaliser ce bois sacré, cette source sacrée, ou bien l'esprit de la rivière, ou la fée de la forêt. Eh bien, maintenant, tout ce monde qu'on appelle le bestiaire, il est rabaissé à ce côté, la nature. La cité, qui est un peu la communauté des hommes et des femmes, la loi, et puis en haut, ce roi qui deviendra de plus en plus divin. Et c'est sur ce schéma-là que sont nées les antiquités. Et alors, pour nous méditerranéens, il faut se dire que ce schéma qui venait de par là, qui, c'est un peu moins compliqué, parce que dans ces années moins 1000, moins 1500, il est arrivé ce qu'on appelle les invasions indo-européennes, c'est-à-dire des peuples venus du nord qui ont conquis la Méditerranée. Et cette conquête de la Méditerranée a forcé un petit peu l'histoire, et de dire que ce que disait Wambé, le dessin à qui antérieur, le qu'il fasse là tout tard, eh bien, ça s'est aggravé. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas de la Grèce, je prends la Grèce, la société des esclaves Athènes, tu as 20 000 citoyens, tu as 200 000 esclaves, et puis tu as ce qu'on appelle les métèques, qui sont, ils n'ont pas le droit de vote, mais ils sont admis dans la société, pas à titre d'esclaves. Donc on arrive donc à des sociétés esclavagistes dans lesquelles, admettons, les femmes n'ont pas le pouvoir, bien que chez les Grecs, admettons, dans la cité grecque, on peut voter les citoyens à part entière, mais les femmes n'ont pas le droit de vote. Et puis il se crée un monde des dieux, l'Olympe, avec Zeus, et puis la Ciutat, et là, dans ce monde d'en bas, on commence à faire du théâtre. Alors, si on commence à faire du théâtre, c'est commençant de faire du théâtre au moment où le théâtre existe, c'est-à-dire moins 500 à peu près, quand on crée vraiment le mot théâtre en tant que tel. Hein, le théâtre, hein, moins 500. Eh bien là déjà, on a une fraction. On prend le théâtre comme l'art de parler, mais avec un cœur, mais encore des cœurs qui dansent et des cœurs qui jouent. Mais on est passé par une évolution pour raconter l'histoire. L'homme se sert d'abord de poètes qu'on appelle les aèdes, qui ensuite donnent la place à des gens qui racontent des histoires, on dirait des conteurs, mais à l'époque on les appelle des rhapsodes. Après, on les met, on fait parler les rhapsodes dans des chœurs de théâtre, qui ensuite vont donner des acteurs, et ça va donner ce qu'on appelle donc la tragédie grecque, et ensuite la comédie grecque. Bon, mais ce qui est intéressant pour nous à voir là-dedans, c'est que ce qu'on racontait, maintenant, on va, les poètes l'ont chanté, les rhapsodes l'ont mis en corps, puis après, le score en ajusta des musiques, des danses, à cause es nascu de los actaires, qu'en fa tragédios, que parlons des problèmes de la ciutat. Ça a été la première esquisse historique del théâtre, hein, d'aquelle époque l'antiquité grecque. Quand arrivé avec les latins, après, hein, moins 100 avant Jésus-Christ, et puis jusqu'à 400 après Jésus-Christ, là, on a un impératum, hein, un empereur, qui devient un dieu, hein, César, c'est en même temps un fils de Vénus. Et puis, le théâtre, contrairement au théâtre grec qui était un théâtre citoyen, là est arrivé maintenant ce qu'on appelle les jeux du cirque. Donnez-moi du pain, bailasme des pas, bailasme des circos, c'est-à-dire les jeux du cirque, les esclaves, les chrétiens qu'on est en train de faire bouffer par les lions, les gladiateurs qui se foutent sur la gueule dans les arènes, etc. Et ça, c'est comme aujourd'hui, faites-moi bouffer de la télévision, merde! Faites-moi bouffer de la télévision! J'en ai pas assez, moi, de mon petit bis-bis-bis-bis, là, 4 heures par jour. J'ai besoin, en plus, de se rencontrer à la maison, à la télévision. Mais eux, c'était pas la télévision, ni des mégaphones qu'on leur donnait, mais c'était du cirque, hein, c'était du cirque et des jeux. Jokes. Circus et jokes. Voilà comment, ensuite, a dégénéré la société latine. Mais avec une petite parenthèse qui nous, Occitans, nous intéresse à ce moment-là. Quelque chose qui pour nous autres est capital. C'est-à-dire que quand en face, quand les Grecs, en presse et même le théâtre, ils se sont donnés dans l'Olympe 12 dieux et déesses, ils se sont donnés 12 dieux plus un. Et ce un, il nous intéresse. Qu'est-ce qu'il s'appelle, à quel un? Les Indo-Européens, ils n'auraient pas lâché ce 1, parce que c'était un dieu métèque, c'était un dieu méditerranéen. Vous savez, les histoires là qui venaient de la Mésopotamie, du croissant fertile de Palestine, eh bien là, eux, ils n'avaient pas droit au chapitre maintenant dans l'Olympe de Zeus. Celui qui a eu la place, c'est le seul qu'on a accepté, c'est qui rentre, qui était le dieu du printemps chez les populations méditerranéennes, le culte du taureau, hein, le dieu du printemps, c'était Dionysos, qui deviendra ensuite chez les latins Bacchus, et qui deviendra ensuite Monsieur Carnaval. Monsieur Carnaval, qu'elle espéra les dates médianes, vers le tournabeire. Mais d'abord, là, vous voyez, ça a été Dionysos, là, ça a devenu Bacchus, là, ça a été Monsieur Carnaval. Avec un côté, donc, d'usure, d'érosion, hein, des mailles et mailles, avec un dieu. Dionysos était le dieu du théâtre, le dieu de la musique, le dieu de la danse, et le dieu du vin. Mais à une époque où le vin, c'était pas uniquement le poivreau qui boit du vin comme ça, à ce soulier rouge qui tâche, non. Le vin dans la société de la societate greco, c'est ce qu'on buvait dans les symposiums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les grands batailleurs de musique, ils se shootent de temps en temps pour se faire un petit peu remuer les tripes, le cerveau. Hein. Et là, à cette époque-là, on buvait du vin. Et il y a des contes, des légendes qui racontent que si vous buvez un peu de vin, vous vous sentez un peu plus gaillard. Si les bébés un peu moyen caron, alors qui commencerait un peu d'intra en transe. Et si les bébés trop, et bien c'est comme une âge, comme une miole, vous serez comme un animal un peu qui ne sait plus où il pose ses pieds et les conneries qu'il peut faire. Donc, nous, ça nous intéresse Occitan parce qu'il n'y aurait pas eu Monsieur Carnaval, toute la société grecque et latine était en train, théâtralement, de devenir pas grand-chose. Mais parce qu'il y a eu ce Monsieur Carnaval, les sociétés, les peuples que la Grèce ou que Rome avait conquis, eh bien, à Kelsdius, ils ont trouvé dans les fêtes carnavalesques de fin d'hiver et de la début de la prime, entrapat loubiaï des poudés, fin une théâtre. Et quand le christianisme, après tout à coup, quand le christianisme arrive, c'est-à-dire devient officiel à partir des invasions barbares qu'on appelle, et la fin de l'Empire romain, là, autour de 400 ans après Jésus-Christ, eh bien, quand les Romains perdent leur empire, il y a vraiment le christianisme qui joue une grande carte chez nous. Le christianisme s'empare de toute l'Europe et une partie également de Constantinople, l'Orient. Le christianisme, la première, pausissiu, caget, cap al théâtre ou cap al art en général, fuget, n'emboulent pas dans art. Les arts n'emboulent pas plus. Pourquoi les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de 400 à 11e siècle, de 400 après Jésus-Christ jusqu'au 11e siècle, durant cette période, le christianisme ne vole pas à Ousi des arts. Ça peut se comprendre. Parce que le christianisme a vécu tout ce que la religion romaine avait empêché, avait mercantilisé, avait abattardi. Aujourd'hui, c'est pas facile de prendre la parole dans une assemblée. C'est pas possible de dire à la télévision ou à Midi Libre ce qu'on pense d'eux. Et on n'a pas beaucoup d'endroits pour le dire. Eh bien, les chrétiens, pendant 4 siècles, chaque fois qu'ils prenaient la parole, on les foutait, on les martyrisait. Et au bénéfice de quoi? De ces jeux du cirque, de Bacchus, qui étaient des jeux où on sacrifiait aux dieux, mais on ne sacrifiait pas à la vérité, c'est-à-dire on ne célébrait pas vraiment les vrais rapports de la société, les hommes, les femmes, ce qui est important de parler, ça on n'en parlait plus. Tu veux du pain, tu auras à bouffer. Tu veux t'amuser, tu iras au cirque, tiens un billet d'entrée, hein, un passe pour aller au cirque, là, voir les gladiateurs ou les chrétiens qui s'est fait manger à Perlouse-Léou. Bon, eh bien donc, le christianisme donc a proscrit les arts. Mais le christianisme, il a eu beaucoup de martyrs, quand Bourgueux tenne à quelle parole. Mais le christianisme, en même temps, il n'est pas arrivé à pénétrer les masses. Parce que prenons notre région. Qui on était, nous? On nous dit les Gaulois. Ouais, mais les Gaulois, c'est qui? C'est pas les mêmes, les Gaulois du Nord et les Gaulois du Sud. Alors, je ne dirais pas que les Gaulois du Sud sont plus braves que les Gaulois d'en haut. Mais c'est pas les mêmes peuples. Nous, on était des Celtes ibères. C'est-à-dire un mélange de Celtes et d'Ibères, d'Espagnols, si vous voulez. Du côté de la Provence, ils étaient des Celto-Ligures, des Celtes plus des Ligures, des peuples qui étaient là. C'est dans le nord, il y a eu d'autres populations, les Francs qui vont arriver, les Visigoths, ils sont arrivés en chemin, hein, c'est toutes ces grandes invasions. On est une multitude de peuples et chacun, on a nos traditions, tous ces peuples qui forment les Gaules. Et dans un premier temps, donc, le christianisme a cru pouvoir prendre la place de tout ça et de dire, vous avez que des dieux qui vous servent à rien. Mais nous n'avons qu'un qui sert à tout, ce qu'on appelle le monothéisme, et le dieu, le père. Et bien ça, ils n'ont pas pu l'imposer. Les peuples sont devenus chrétiens par la force des choses. Bon, quand créé a parlé en des Zeus, des Jupiter, en parlant des dieux ou loupaires. Mais ça rentrait pas. les chrétiens sont arrivés à faire rentrer le discours chrétien, les rituels chrétiens, parce que, par la force des choses, ils ont été obligés d'occuper les mythes, les rites, les lieux que les religions précédentes, religions ou les cultes, les initiations, les fêtes païennes précédentes, établissaient. Et c'est ainsi que, par exemple, dans la période du carnaval, eh bien, le saint patron de mon village, Pézenas, on y sont allés chercher Saint Blaise, parce que Saint Blaise est capable de parler avec les animaux. Ou bien on a pris Saint Blaise parce qu'à Pézenas, il y avait les métiers du cuir, les métiers de la laine. Il y avait beaucoup de bergers. Donc on choisit un saint, on pique toutes les traditions païennes, on leur met à leur tête Saint Blaise, qui est le saint finalement le plus sympa par rapport au printemps, par rapport au métier en question. Et puis c'est là-dessus, sur ce substrat barbare, ce substrat local, que le christianisme est arrivé petit à petit à s'enraciner. Si bien que dans le haut des Ledat Medjanaut, là, le christianisme a eu du mal à s'implanter, pas même dit le bas Ledat Medjan, dans le Moyen-Âge bas, là, il a pu prendre racine. Quand il a pris racine, le christianisme, il a accepté, il s'est ouvert au théâtre, il s'est ouvert à tous les rites païens qui existaient avant même que Jésus-Christ soit venu prêcher. Et dans cet univers, donc, il a choisi donc le bas Moyen-Âge et d'Admédjan, hein, il a créé le profane et le sacré. Alors là, c'est le domaine du sacré, là, c'est le domaine du profane. Et là, il y a toujours ce domaine de la nature, ambelas fenos, lus mostre, lus totem, qui ne voulait pas trop parler. Alors, c'est devenu un peu l'art roman. Essaye d'apprivoiser un petit peu ce bestiaire. On fait rentrer sournoisement l'art roman qui réintroduit un peu le Moyen-Âge farcesque, le Moyen-Âge primitif. Hein, voilà. Et là, il crée donc l'Église, à partir donc du XIIe siècle, crée le profane. Vous avez entendu parler de Saint-François, en vous y parlant des crèches vivantes. Alors ce que le théâtre qui est autorisé à ce moment-là, par exemple, c'est de... on met le petit Jésus dans une crèche, il y a la Vierge Marie d'un côté, il y a Papa Joseph qui est de l'autre, il y a les rois mages qui vont arriver à ces jours-ci. Bon. Et puis, on fait parler tous ces gens. Et c'est devenu comme ça, le théâtre profane, il est né de la mise en scène, de la mise en théâtre de pages de l'Évangile. L'arrivée des rois mages, ou bien sur d'autres moments, ça va être la naissance de Jésus-Christ, à d'autres moments, ça va être la chandeleur, quand la Maire de Gesù s'emba per al moment de la candelou, de la chandeleur, va se purifier au temple. Chaque fois, les chrétiens s'emparent, vous voyez là, du domaine profane, soit pour raconter l'histoire des saints, qu'on appelle ça la géographie, soit c'est directement du théâtre sacré avec ce qu'on appelle les passions, hein, les miracles qui racontent l'histoire du sens. Et les passions, c'est toute une ville, tout un biulace, 1000, 2000, 3000 personnes per juga la passion de Jésus-Christ. Les miracles sont mai de juglars, des jongleurs qu'on appelle, des mondes qui racontent, mais qui quand même jouent les personnages de qui sont en train de parler. Donc, le théâtre sacré et le profane qui, lui, reçoit en même temps l'héritage du carnaval. Et on fait rentrer dans le théâtre du bas Moyen-Âge, faisant intra tout ce qu'est le jugement du carnaval, tout ce qu'est un peu la fête du rei carnaval, la mise à mort du carnaval, avec la fin du carnaval, mi-carême, où de nouveau la religion reprend son pouvoir sur la société. À qui c'est dans un pas important pour l'Occitan. Et c'est là qu'on va introduire le théâtre minoritaire, parce que quand on en est là, au Moyen-Âge, l'Occitan existe un caro, existis un caro como l'occitan es la lengua fondamentale. L'occitan es nascut vers la 1000, la langue d'oc, elle est née comme le français autour de la 1000. Mais pendant le siècle 11, le siècle 12, le siècle 13, pendant trois siècles, l'occitan il a pu grandir dans toute sa liberté d'exister. Si bien que quand on arrive au XIIIe siècle, l'occitan, c'est une des langues qui est la mai parlada dans l'Edat Mitjana, mais en même temps qui est un peu à capita un biais de parlant différentement del christianisme. Et c'est la période des troubards, des troubadours, le troubard. Et là, on a toujours, bien sûr, Dieu, le Dieu chrétien, mais dans le schéma qui est permanent à travers toute l'histoire de l'humanité, là, on a le troubard qui, lui, la femme, elle a été rejetée dans ce pôle de la nature, l'homme, il est toujours plutôt dans le pôle de la cité, mais là, avec les troubards, il y a convergence de la femme vers l'homme et de l'homme vers la femme, et là, en train de se créer ce qu'on appelle l'amour courtois, l'amour courtois, c'est-à-dire une civilisation entre ako, l'amour, kuntumai, fin finale, que l'udiu. C'est-à-dire un rapport d'amistà, d'intelligence, de connivence entre l'homme et la femme per gestionar la società. Direi pas à la place de Dieu, mais n'y a d'autre que l'udiu et sous les et les cathares qui eux disent que c'est une société injuste, qu'il y a le monde du bien et il y a aussi en bas le monde du mal, qu'on est fait pour naître dans un monde qui est mauvais, que le seul moment où on retrouvera vraiment la liberté, le bonheur, c'est quand on passera de la mort à la vie, à la résurrection. Mais là, ce discours d'hérésie, il est des hérèches, des hérésies cathares, est interdit d'être dit. Et là, il y a la croisade contre les albigeois. C'est-à-dire que ce discours de civilisation, à quel discours est intrigue des crémas, et d'intrant dans une passade nouvelle, qu'est-ce, Bertadier Ramen, le schéma du sacré, mais qui est représenté maintenant par les rois de droit divin, comme ça l'était déjà chez les empereurs romains, hein. Mais maintenant c'est le roi absolu, la monarchie absolue. Il y a toujours plus ou moins là, le royaume avec les serfs, le peuple qui travaille, et puis là il y a les enfers, l'enfer, et puis là dans le sacré il y a peut-être pour certains le paradis. Mais ça, c'est le schéma majoritaire. C'est dans ce schéma-là que va se constituer, à partir de la fin du bas Moyen-Âge, une nouvelle société dans laquelle il faut faire la différence entre le théâtre majoritaire, c'est-à-dire le théâtre qui obéit à cette loi, et puis le théâtre qui conteste cette loi et qui est le théâtre des minorités. Le théâtre de las minoritates, c'est un théâtre qui ne va plus dépendre de le roi, la cité, le royaume, les enfers. C'est un théâtre qui va déjà, dans ce système, c'est pas le moi qui va être gagnant, c'est pas non plus la langue del rey qui va devoir être maîtresse, la langue du roi, les coutumes du roi. Hein, non, on va rentrer dans un autre schéma dans lequel on va avoir l'ethnoculture, c'est-à-dire la langue d'oc, les jeux qui appartiennent à cette langue, les fêtes, les traditions, bien sûr autour de la communauté villageoise, le quartier, et puis également en liaison avec ce qu'aujourd'hui on appellerait un écosystème, c'est-à-dire tout ce qui vient plus ou moins de la nature. Alors, je vais peut-être après répondre à vos questions pour ne pas être quand même trop long dans ces questions. Je voudrais simplement vous citer la différence qu'il peut y avoir entre un théâtre de las minoritates et un théâtre de la majoritate. Dans le théâtre de la majorité, là, tel que on le voit là, on procède par le système qu'on appelle d'abord le moi. Ce qui compte, c'est un moi qui ressemble le plus au roi. Nous, dans le schéma occitan, le schéma minoritaire, c'est le nous. Un auteur occitan, moi j'ai fait encore, dans les années 90, 93, 95, j'ai fait le tour de tout ce qui avait écrit en occitan. Et je me suis aperçu qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui écrivait en disant « moi je ». Aujourd'hui, si vous dites, commencez pas à dire « moi je ». Moi je, vous passez pour un pignon. Mais par contre, dans le théâtre occitan, on prend la parole pour dire, mais prenez la parole pour dire in prioritate, parlant de nous autres, de notre obido, pas pour faire uniquement un recanto entre nous autres, mais pour parler de la bido bidanto, à qui un test, à qui peut les balouber et perdre que l'ouber est à qui, mais c'est l'ouber est à Paris. L'outil de Moulta à Paris, de Trapamoumbeire et de Nefakikon, à l'outil qui est de passage, je dirais, de bien impossible. Le théâtre, donc, c'est une écriture de nous et une écriture de moi. Le théâtre majoritaire, en plus de ça, du moins, il cherche la réussite par un système qui est la surenchère, surenchérir sur le progrès des arts. Alors, ça veut dire quoi? Ça, vous l'avez appris, contre-appris. On retient du théâtre dans nos écoles uniquement le nom des grands auteurs, de leurs œuvres, ce qu'il y a en dessous, entre les lignes des œuvres ou dans la vie des auteurs, ça ne s'en occupe pas trop. Hein, mais voilà, ce qui compte, c'est de renouveler l'art. Un art n'est pas fini que déjà, tire-toi que je prends la place. Donc on a eu comme ça, à partir de la Renaissance, le classicisme qui est la langue, le théâtre del rey, et que tout le monde début est très classique, mais notre est lingodoc, à le moment où la France est au classique, notre est baroque. Le classicisme, regardez un tableau peintre classique, il y a toutes les endreches du tableau, quand des focales qui va en une endreche. Il n'y a pas la possibilité de... Il y a tout qui était la couleur, la forme, tout à coup qui était centralisé en une agache, al centre. Per la sculpture minoritaire, est le baroque, 16e, 17e siècle occitan, c'est-à-dire qu'au contraire, le baroque, c'est que quand tu regardes un tableau, tu as plus d'une ligne de fuite. C'est-à-dire, ce qui encourageait, ce n'est pas un centre avec le roi et le bon Dieu, c'était la pluralité des possibles. C'est les cadets de Gascogne, c'est D'Artagnan, c'est tous ces héros qui sont des vanupiés. On n'a pas pu en faire des propriétaires terriens, alors on les a foutus à l'église, on les a foutus cadets de Gascogne pour aller se battre dans les troupes du roi. C'est ces gens, ou bien des petits auteurs de clochers, ce sont ces gens qui font avec ce qu'ils peuvent faire. Bon. Et ce n'est pas la même progression. La progression des écoles du théâtre majoritaire, c'est une progression école par école. Je disais, RN classico, notre RN burlesque, ici. Après, ils ont dit, après ça, il faut que nous soyons pour le théâtre des Lumières, la raison résonante. Nous, on a été à ce moment-là néoclassique et on deviendra ensuite post-moderne, post-romantique, après que le romantisme ait lieu en France, mais post-romantique, c'était déjà une ouverture sur le burlesque, une ouverture sur le romanesque. Quand le théâtre majoritaire se fonde sur le roi, sur le moi et sur les écoles littéraires, nous, on ne se fonde pas sur autre chose que la communauté. Qu'est-ce que le conserve pour pouvoir durer ? C'est-à-dire durer dans la vie, comme sont les plantes, comme est la nature. Durer, c'est vivre par des cycles. Les cycles longs, qui sont ceux de la maintenance, on maintient des traditions, et les cycles courts qui sont ceux de la rupture, où on fait rentrer dans la tradition des coups de génie d'imagination, des coups de génie d'invention. Et ça, c'est toute l'histoire du théâtre d'or, c'est-à-dire l'histoire des minorités. Ce n'est pas de faire de plus en plus « moi je », j'invente les nouvelles formes stylistiques, je ceci, je cela. C'est une communauté qui a pas un rond, mais qui quand même maintient son identité de communauté, parce qu'on sait durer en travaillant avec des cycles de maintenance, comme la nature en hiver, on ne peut pas naître avant que les bourgeons ils donnent les fleurs. Donc il faut maintenir. Et d'autres moments, au contraire, c'est le moment de faire jaillir la sève. C'est le moment de... Voilà. L'organicité, le biosystème du théâtre minoritaire, c'est un théâtre qui repose comme ça sur la nature, sur les écosystèmes, sur l'anthropologie, alors que le critère du théâtre majoritaire en Occident, c'est sans cesse remplacer une école par une autre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes qui existent à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le même schéma, et ce n'est pas le même schéma, ok, des failles des théâtres occitans, qu'est-ce un théâtre per continua, per salva une identitat, et per fin final, faire ce qu'on appelle le retour éternel, et le retour éternel, c'est-à-dire après la mort, la vie, après la vie, la mort, après la vie, la mort, et c'est le retour éternel, c'est-à-dire c'est une société dont le but est de créer l'équilibre, alors que ici, le but c'est au contraire de créer de plus en plus quelque chose qui fait des no. Hein, du neuf à tout prix, hein, voilà. Donc je dis pas que un tableau vaut mieux que l'autre, mais vouloir comparer le théâtre minoritaire et le théâtre majoritaire avec les mêmes critères d'analyse, c'est-à-dire de dire par exemple le théâtre minoritaire, vous êtes trop à parler avec l'accent, vous êtes en trop de bouger, vous n'avez pas une finition esthétique comme on l'a dans le théâtre français, vous n'avez pas suffisamment d'école stylistique comme nous avons dans le théâtre français, c'est inaudible parce que ça ne répond pas aux mêmes lois de la vie. Les lois de la vie dans le théâtre doc, pour se survivre en tant que tel, c'était de hériter de toutes les traditions saisonnières. Au printemps, eh bien, tu fêtes le carnaval. Ça va être l'été, tu fêtes la Saint-Jean. Ça va être la fête des morts, tu fêtes Martrou. Ça va être Nadal, tu fais le solstice d'hiver, le solstice d'été. C'est-à-dire tu vis avec le soleil. C'est un cycle qui est cosmique, c'est un cycle qui est solaire. Et c'est un cycle qui est de la résistance et d'une créativité, mais qui dépend de faire pousser la nouveauté sur de la tradition, sur du substrat, le choix du substrat, le choix du pays, là où on vit, là où on est actif, là où on peut changer les choses. Le reste n'est pas contre, mais d'abord faisons bien le travail chez nous, et on en sera d'autant plus compétent et gonflé et fort, perna ajuda lusque sonin la merde. Voilà la philosophie du théâtre minoritaire, voilà la philosophie du théâtre majoritaire. Je pourrais ajouter beaucoup de choses encore sur l'histoire des théâtres majoritaires et minoritaires. Voyez-vous, quand nous, ma génération, on a essayé de battre le théâtre français sur son terrain, on se trompait. Mais quand nous, on est sur notre terrain, c'est-à-dire ces fêtes saisonnières, ce théâtre où en même temps il n'y a plus de théâtre, nous sommes revenus au temps primitif, où en même temps c'est un espace total, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de l'expression orale des contes, il y a de la fête de rue, il y a un décorum qui est nos monuments, qui est notre vie de chaque jour. Là on est sur notre territoire, là on est sur notre terrain, là on est dans notre esthétique. Mais quand on va à Avignon, qu'on rencontre des publics qui vont là pour se montrer, ou bien pour écrire de belles lettres, là nous sommes un terrain ennemi. Par, bien sûr, quand c'est les années 1968, que tout le monde en France était révolutionnaire, alors là, putain, on va voir le théâtre de la carrière, alors là ils sont gonflés ces jeunes, hein, ils sont gonflés, ils se foutent le dos, les gendarmes, ils foutent la merde partout, là ils sont gonflés ces jeunes, hein, ah putain, ça vaut le coup de les regarder, hein, ouais, ça, on n'aura jamais pu Puis après, ça se retourne. Les années 68, elles ont duré 10 ans. Mais puis après, on était encore plus cons qu'avant. Et peut-être parce qu'on n'a pas su, à ce moment-là, tirer la couverture dans le sens qui était le nôtre. Alors, bien sûr, quand, de nouveau, la pensée majoritaire est revenue dans les années 80, la mondialisation derrière, la médiatisation qui a continué après, la culture marchandise tout à coup, c'est vu que notre c'est tourna est les plougs du théâtre. Voilà, donc moi je suis actuellement, je suis complètement ségur d'une cause, c'est ces temps de bide qui m'ont madura qui dédins, pour pas mesclar las payos et las servietos. Il faut les deux dans la vie. Mais moi je préfère me trouver au milieu des payes, pétassons, etc. Mais être dans mon milieu, être dans les endroits où des gens peuvent t'écouter. Parce que même s'ils ne sont pas nés ici, mais ils sont quelque part complices avec les histoires que nous vivons ici, parce qu'elles sont populaires, parce qu'elles sont davantage liées à la vie, qu'elles sont davantage liées au cycle cosmique de l'univers, que aller faire le beau dans des cours plus ou moins subventionnés par les uns ou par les autres, dans lesquels, ma foi, avant de s'asseoir, on salue, on vient bézouiller la main du voisin ou de la voisine. Bon, ça, c'est pas la philosophie d'un théâtre, donc, c'est pas la philosophie des théâtres minoritaires. Savez bien qu'on ne peut pas esculper des pertoutes. Mais, pour un chercheur comme Yéou, mes refusis, de dire qu'on peut comparer un théâtre minoritaire avec un théâtre majoritaire. J'espère que notre avons créé l'ethnocénologie. L'ethnocénologie, c'est de considérer le théâtre pas uniquement dans l'historicité bourgeoise du théâtre majoritaire, mais c'est d'étudier le théâtre en fonction des saisons, en fonction de la vie des gens, de leurs problèmes, de leurs inventions au niveau de la création collective, de la façon dont ils vont mêler les jeux. Vous savez, on peut pas, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais je pourrais vous citer Eugène Barba, Mnouchkine, qui sont parmi les meilleurs du théâtre occidental. Mais quand ils sont allés voir ce qu'était le théâtre oriental, ou le théâtre des minorités, ils sont allés les voir dans le sens de « donnez-nous de vos recettes, parce qu'en Occident, nous en manquons. » Pour qu'ensuite, ces recettes, on les applique chez eux. Mais c'était d'aller les chercher ailleurs. Tandis que le théâtre minoritaire faisait l'ambition cabin, et c'est manquant de cause, la scala inventa. La scala inventa est en contact, c'est gu, avec les autres minorités de la terre, les autres théâtres de la terre, mais t'avais avec aquello éthico, aquello déontologio, que ce qui résiste, que ce qui érasigo, est ce qui compte que Dieu passa par notre sicap, par notre expérience. Bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire?